Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Jean-Mélène Betty.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h partout en Côte d'Ivoire, au sommaire de cette édition. Le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, attendu ce mardi à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Plus de détails dans cette édition. Mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril prochain. Le FPI juge plus importante une réforme de la CEI. Le RHDP de son côté s'interroge sur cette position et estime au contraire que cette opération est une priorité. Sur ces divergences, vous aurez dans quelques instants Kwaku Kra, vice-président du parti à la Rose, chargé des questions électorales. Et pour le parti au pouvoir, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. Et puis au Sénégal, le plus jeune président âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment devant ses pairs africains ce mardi. Enfin, nous retrouverons en fin d'édition l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Jean-Gervais Keïdé, secrétaire général du PPACI. Il fera un tour de l'actualité en parlant notamment de la visite à Laurent Gbagbo de Camarade Souleymane Dissoul Toussoul, un proche de Soro Diome. Entre autres sujets abordés avec Francis Cassi en fin d'édition, l'élection présidentielle au Sénégal. Voici pour l'essentiel. Comme annoncé, le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du mardi 2 au jeudi 4 avril 2024. Lors de cette visite officielle, le président italien aura à son calendrier un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au lendemain de son arrivée, le mercredi 3 avril 2024 au palais présidentiel. Il est prévu au calendrier du président italien la révisitation de plusieurs accords d'amitié dans plusieurs domaines d'activité et un point de presse au palais présidentiel. La CEI procédera à la mise à jour de la carte cartographie électorale du 1er au 30 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. Bien qu'étant d'accord avec cette opération, le Front populaire ivoirien estime qu'elle n'est pas le sujet principal à traiter. Pour Kwaku Kra, le vice-président chargé des questions électorales de ce parti, la priorité devrait être une nouvelle commission électorale indépendante.
Je pense que ce qu'ils veulent faire là n'est pas l'essentiel de la crédibilité du scrutin de 2025. Ce qui est primordial, c'est d'instaurer un dialogue politique afin de discuter des questions pendantes. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de questions pendantes. Et je pense que au lieu de s'apesantir sur une cartographie électorale, il faut aller sur les questions réelles, la liste électorale par exemple, les questions de financement. Depuis 2001, nous avons installé une CEI politique avec plusieurs composantes. La société civile, les partis politiques, opposition au pouvoir, l'administration. Mais l'image de la CEI dans la société est écornée. Et en la matière, il faut donc retourner poser la question aux parties prenantes des élections pour voir quel type de CEI il nous faut aujourd'hui. Sinon, si c'est avec la même CEI en 2025, il risque d'avoir des problèmes dans la mesure où à tout moment, la CEI est au banc des accusés.
Donc, pour vous, la priorité, c'est pas la mise à jour de la cartographie électorale?
Non. C'est un élément important, mais c'est vers la fin. Ce qui est primordial, c'est la commission électorale elle-même, c'est la liste électorale et puis la question du découpage électoral.
De son côté, le RHDP dit ne pas comprendre pourquoi certains partis jugent plus importante une réforme de la CEI que la mise à jour de la cartographie électorale. Là-dessus, retrouvons son secrétaire exécutif adjoint chargé des élections, Doumbia Brahima.
Nous sommes informés par rapport au communiqué publié par la commission électorale indépendante. Nous avons pris connaissance donc de cette opération. Donc nous sommes informés.
Pour vous, qu'est-ce que cela signifie, mise à jour de la cartographie électorale?
Il s'agit de tenir compte des modifications qui interviennent au niveau de la population. La mise à jour de la cartographie consiste donc à regarder les sites qui sont habités, celles qui méritent donc d'être érigées en lieu de vote, les lieux de vote qui n'existent plus, comment les remplacer. Et puis bon, si vous avez de nouveaux villages, de gros campements, département où il y a un électorat potentiel qui mérite d'être érigé en lieu de vote. C'est tout ça qui constitue l'actualisation donc de la cartographie électorale.
Il y a des partis que nous avons déjà eus qui disent que oui, c'est bien de faire une mise à jour de la cartographie électorale, mais ce n'est pas la priorité et que la priorité et le plus important, c'est la refonte de la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bon, pour moi, la refonte de la CEI, dans quel objectif? Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à la CEI? En tout cas, nous, au RADP, la formule qui est là, nous pensons que certainement on peut l'améliorer, mais elle n'est pas mauvaise. Parce que les élections qui ont été organisées tout récemment par cette commission électorale, ces élections ont été bien organisées, tout le monde l'a reconnu. Les résultats qui sont sortis des unes ont été les bons résultats.
À l'instant, le secrétaire exécutif adjoint du RHDP chargé des élections, Doumbia Brahima, et juste avant lui, le vice-président du Front populaire ivoirien chargé des questions électorales, Kwaku Kra. Ils ont tous deux été joints par Francis Kassi. Le lancement de la première édition du festival Agua a eu lieu le vendredi 29 mars à Brobo, dans le Gbeke. Profitant de l'occasion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, s'est exprimé sur la question de l'endettement de la Côte d'Ivoire, régulièrement pointée du doigt par certains partis de l'opposition. Kobena Kwasi Adjoumani, ici dans des propos recueillis par Joseph Assali.
Si le FMI, si la Banque mondiale, qui sont les gendarmes de nos économies au niveau mondial, nous accordent des crédits, c'est que nous sommes crédibles. Est-ce qu'on peut donner l'argent à quelqu'un qui n'est pas crédible? Est-ce qu'on peut donner l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser? Toi, tu dis que tu as eu 7 000 milliards. Mais 7 000 milliards, les gens ne t'en donnaient pas parce qu'ils ne te faisaient pas confiance. Or, Alassane Ouattara, le monde entier lui fait confiance. C'est pour cela qu'on lui donne l'argent. Donc les gens n'ont qu'à savoir que l'argent qu'on a pris pour travailler là, c'est ça aussi qui crée la richesse. Quand vous arrivez à Kwaké, on a l'impression d'être dans une ville d'Europe, tellement les rues sont bien faites. Et lorsque vous quittez Msokro pour venir à Kwaké, regardez cette belle autoroute, regardez cette université, regardez ce grand stade où nous avons eu à faire de belles victoires.
Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. La 6e édition du Salon des Inventions d'Abidjan, encore appelé Abidjan Innova 2024, se tient du 28 s'est tenu du 28 mars au 30 mars au Palais de la Culture d'Abidjan. Meublé par des expositions, ventes et des panels, ce salon enregistre la présence d'un jury d'experts chargé d'analyser la qualité des inventions en vue de la cérémonie de distinction qui se tiendra le troisième jour. Christelle Yissou.
Une vingtaine d'exposants étaient présents à cette 6e édition, placée sous le thème « Invention des mines d'or à exploiter ». Kalibi Christian, coordonnateur général du salon.
Une fois de plus, démontrer aux yeux du monde, en particulier aux yeux de nos gouvernants, que nos inventions que nous avons sont au même titre que les mines d'or. Donc elles ont besoin d'être exploitées pour ajouter une valeur à notre produit intérieur brut.
Pour le professeur Annick Tahiri, biologiste et panéliste à ce salon, les inventions ont beaucoup évolué dans le pays ces dernières années.
Il y a eu un réel progrès au niveau des produits proposés, de la qualité de ces produits, des finitions, et puis un réel engouement par rapport à l'utilisation de ces produits. Il y a quelques années avant, c'était beaucoup plus compliqué, complexe, avec moins de visibilité. Et je découvre qu'il y a des produits de plus en plus à très haut potentiel d'innovation. Et des fois, le potentiel est tellement haut que finalement, ça reste en décalage avec les besoins de la population.
Venu visiter le salon, Meillet Daniel, chargé d'accompagnement des entrepreneurs, se dit satisfaite par la qualité des panels.
L'innovation est l'un des critères de sélection des entrepreneurs qui sont dans nos parcours d'incubation. Et donc, je suis venu ici pour comprendre un peu est-ce que nous sommes vraiment sur le bon chemin dans notre programme. Parce que de plus en plus, les entrepreneurs qui se mettent dans l'agroalimentaire cherchent à innover.
Le salon se referme par une remise de distinction aux meilleurs inventeurs.
Capemi sur Catiola, où une délégation des lycées spécialisés en céramique de Limoges en France a visité ce lundi 1er avril le lycée professionnel de la céramique et de la décoration de la ville de Catiola. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisé. Joseph Assali, notre correspondant régional dans le Gbeke.
La visite de la délégation des lycées de céramique de la ville française de Limoges sous-tend un objectif selon la directrice du lycée professionnel de la céramique et de la décoration de Katiola, Koukbara Martine.
L'objectif, c'est que la délégation s'imprègne de réalité et qu'ensemble voir comment nous accompagner pour, dans la modernisation de notre établissement en termes de mobilité de nos formateurs et de nos apprenants et en termes aussi d'équipement et puis de l'élaboration des référentiels de formation. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos offres de formation?
L'espoir est permis si l'on s'en tient aux propos des membres de la délégation française.
Christelle Aupetit-Berthelemot, je suis directrice d'une école d'ingénieurs à Limoges. Nous allons apporter l'expertise que l'on a à Limoges puisqu'on est une ville céramique. Donc on va essayer d'amener toutes ces expertises compétences pour aider les enseignants d'ici à se former à nos méthodes qui sont beaucoup plus automatisées bien entendu et puis apporter notre expertise aussi au directeur régional pour donner des plans de déploiement de nouveaux matériels nécessaires pour la formation ici.
Philippe Chapollet.
On a déjà proposé éventuellement d'amener des moules, des choses comme ça, qu'on en a pas mal à l'école, on va en donner et après surtout on former les enseignants à ce qu'ils deviennent autonomes.
Tout cela augure des perspectives heureuses, espère le professeur Adima Augustin, conseiller spécial au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Oui, je pense que ça sera un lycée qui aura un matériel innovant, avec un parcours technique vraiment riche, faire ici une zone industrielle dans le domaine de la céramique.
Joseph Assalé, Katiola, Radio de la Paix.
Et puis cette note de tristesse dans cette édition romancière opère la grande dame des lettres antillaise et africaine, Maryse Condé, s'en est allée dans la nuit du 1er au 2 avril 2024 à l'âge de 90 ans, originaire de la Guadeloupe, née Maryse Liliane Apolline Boucolon. L'écrivaine disparue était auteure d'une trentaine de titres, dont des romans, des essais et des titres pour la jeunesse. Sur le continent, au Sénégal, le plus jeune président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, élu sur la promesse de rupture avec le système en place, a prêté serment ce mardi. Bassirou Diomaye Faye, jamais élu auparavant, devient à 44 ans le cinquième président du pays ouest-africain depuis son indépendance. Un extrait de son intervention lors de cette prestation de serment, une correspondance particulière de Abdourahmane Diallo.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine.
À l'instant, depuis Dakar, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Autre investiture, et cette fois-ci en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prêté serment ce mardi devant le Parlement pour son troisième mandat à la tête du pays le plus peuplé des pays arabes. Au pouvoir depuis une décennie déjà, al-Sissi devrait rester à son poste jusqu'en 2030 après avoir remporté en décembre l'élection présidentielle avec 89,6% des voix face à trois autres candidat relativement peu connu du grand public. Ancien chef de l'armée et ministre de la Défense avait orchestré en 2013, un an avant son accession à la présidence, la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi suite à des manifestations des populations. À présent, le dossier d'actualité, rendons-nous à Daloa où le Pakinou, à l'instar des villes et villages du Grand Centre, a été célébré dans les campements du Haut-Sassandra, majoritairement peuplés par les communautés baoulées. Pendant cette période, dans ces campements, les populations restées sur place échangent également autour de leurs difficultés qui sont entre autres les méventes de leurs produits agricoles, café et cacao notamment. Jean-Noël Kwame s'est rendu dans plusieurs campements majoritairement baoulés pour comprendre les raisons qui obligent certains à rester sur place et évoque au passage les attentes en matière de développement de l'ensemble des communautés dans ces campements. Suivons ce dossier.
Dans le campement de Digricro, à environ 10 km de Daloa, l'ambiance, cette fête de Pâques, était un peu morose.
Kofi Jean, chaque année, pendant les fêtes, on va au village. Mais cette année, compte tenu des moyens, nous sommes restés au campement. Manquant de moyens aussi, cette année, on n'a pas pu célébrer. Mais avec la santé, ça va.
Afoué Marie, je suis à Caillou. Je me sens gêné de ne pas pouvoir partir au village. Mon activité, c'est le placali. Cette année, ça ne marchait pas. C'est les moyens financiers qui nous ont manqué.
Ngessa Alexandre, Odula, tu dois t'occuper de ta femme, des enfants, des parents qui sont au village. Chaque année, tu ne peux pas aller à chaque fois au village. Moi, mon papa est décédé, ma maman est décédée.
Malgré les moyens limités, le chef central adjoint des campements de cette localité, Kuna Mathias, entretient la bonne humeur avec des jeunes sous une paillote.
Cette année, il n'y a pas eu les moyens. Sinon, dans cette année-là, on se réunit, on danse bien, on mange bien et puis le soir, on se disperse.
La fête de Pâques, c'est aussi et surtout une occasion pour évoquer les réalités du quotidien dans les campagnes. Ngora Kwame, travailleur à Korogo, est venu faire la fête avec ses parents et ses amis.
Mes parents rencontrent beaucoup de difficultés ici. Le prix des produits, le cacao, le café, tout a baissé. Nos mamans, il faut aller chercher l'eau au puits, au marigot, tous les matins. Il y a une seule pompe villageoise qui alimente plus d'une trentaine de campements. Il faut faire le rang pour avoir de l'eau potable pour boire. Du côté de la santé, se trouve l'hôpital, fait près de 7 à 8 km. L'école à Caillou, c'est à 2 km, mais le campement soit 10 km, que le gouvernement pense à rapprocher la santé, l'école auprès des villageois.
À quelques kilomètres de là, à Kouassi-Kokorikro, faute d'électricité, Kwadio Romuald installe des enceintes sonores et un groupe électrogène pour une soirée dansante.
C'est la fête de Pâques, on ne peut pas rester comme ça. On a fait sortir les sonos. On a un groupe, c'est avec ça qu'on va animer. On a besoin de moins 10 litres à 12 litres d'essence jusqu'au matin. 10 000 à 11 000. On a besoin de courant pour le village. Si on n'est pas parti au village, mais nous sommes en plus ici, on va fêter jusqu'au matin.
Même si les choses ne se déroulent pas comme prévu pour tous les habitants de ces campements, le chef central adjoint, Mathias Kounan, rassure que le plus important, c'est la paix et la cohésion entre les communautés.
La fête de Pâques, le chef central appelle tous ses frères. Ils viennent ici, il y a Zipri, Godet, Fafoué, il y a Ayaou. Il y a de notre pauvreté terrienne. On est ici, il n'y a pas de problème. On s'entend très bien, il n'y a rien de grave à la paix.
Jean-Noël Kwame, de retour de Digricro, Radio de la Paix.
À présent, l'invité de la rédaction, Jean-Gervais Tchédjé, est aujourd'hui l'invité de la rédaction pour refermer ce journal. Secrétaire général du PPACI, il se prononce sur quelques faits de l'actualité, notamment la récente visite à Laurent Gbagbo de Kamaraté Souleymane, dit Soul Toussoul, un proche de Soro Diome. Par ailleurs, Jean-Gervais Tchédjé salue la résilience du PASTEF, parti d'opposition, qui vient de remporter l'élection présidentielle au Sénégal. Sans plus tarder, retrouvons Jean-Gervais Tchédjé dans un entretien avec Francis Cassi.
Jean-Gervais Tchédjé, bonjour.
Bonjour.
Alors, récemment, Soul Toussoul, à l'état civil, Kamaraté Souleymane, proche de Soro Diome, est allé rencontrer le président Laurent Gbagbo. Alors, officiellement, on nous a dit que c'est pour aller lui dire merci.
Oui, il s'agit effectivement d'une visite de reconnaissance pour exprimer sa gratitude au président Laurent Gbagbo pour l'aide qu'il lui a apportée, le soutien moral et le combat qu'il a mené aussi pour que les prisonniers politiques, notamment militaires et civils aussi, soient libérés. Donc, c'est en reconnaissance de tous ces efforts déployés par le président Laurent Gbagbo que M. Souleymane Dissoul Toussoul est venu saluer le président Gbagbo avec sa mère et les membres de son équipe politique.
Mais cela a donné lieu à des spéculations médiatiques. Dans les médias, on a lu, c'est vrai, c'est pour témoigner sa reconnaissance au président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que cela n'annonce pas un rapprochement, selon ce que nous avons lu dans les médias, entre GPS et PPACI?
Alors, écoutez, les médias ont le droit de faire les commentaires. Vous le dites vous-même dans votre jargon professionnel. C'est les faits qui sont sacrés, les commentaires sont libres. Et donc, ils ont le droit de commenter comme ils le souhaitent. Mais en tout cas, ce n'est pas ça la question. La question, c'est juste une visite de reconnaissance, de gratitude.
Mais est-ce que le PPACI n'a jamais pensé à cela, puisque vous êtes tous deux dans l'opposition?
Bien, nous sommes dans l'opposition et nous ambitionnons de reconquérir le pouvoir d'État. Nous l'avons d'ailleurs dit clairement en désignant le président Laurent Gbagbo comme notre candidat. à l'élection présidentielle de 2025. Sur le chemin entre maintenant et l'élection présidentielle de 2025, toutes les possibilités sont ouvertes.
Mais il y a un média qui s'est interrogé pourquoi Laurent Gbagbo, jusque-là, n'a pas encore reçu Charles Blé Goudé, mais reçoit un membre du GPS. Lui ne comprend pas cela très bien, ce journal-là.
Eh bien, et comme je le dis, il a le droit de s'interroger. Je rappelle que c'est à la demande de M. Tsotsoul que le président Laurent Gbagbo l'a reçu. Pour ce qui concerne M. Charles Blé Goudé, je n'ai pas encore connaissance qu'il ait souhaité rencontrer le président Laurent Gbagbo.
Alors, les élections, c'est pour 2025 et Laurent Gbagbo est handicapé. Vous êtes vraiment conscient, n'est-ce pas?
Handicapé par quoi?
Par la condamnation judiciaire qui le rend fort clos par rapport à la compétition à être candidat.
Non, pour nous, ce n'est pas du tout un handicap, dans la mesure où il s'agit d'une manœuvre durement politicienne pour l'écarter. Et donc, c'est par des voies politiques qu'on va lever ce petit verrou. Et donc, pour nous, il est nullement handicapé et il est notre champion que nous allons présenter en 2025 et gagner. Chemin faisant, les questions administratives de sa réinscription sur la liste électorale, on les réglera.
Alors, après la libération de certains prisonniers récemment par grâce présidentielle, le PPACI a dit qu'il y a encore des prisonniers selon ses propres thèmes politiques en prison. Oui. Pourquoi?
Nous ne savons pas, mais on note qu'il y a 11 pour être précis, prisonniers politiques civils et militaires qui restent encore dans les geôles. Et donc, tout en remerciant le pouvoir pour les pas accomplis dans le sens de la décrispation et de la réconciliation, le président Laurent Gbagbo a fait remarquer que pour qu'on solde définitivement ce volet des prisonniers politiques, il faudrait que le président de la République continue jusqu'au bout de cette logique.
Une élection présidentielle vient de se dérouler au Sénégal et tout le monde acclame ça, tout le monde la qualifie vraiment de démocratique. Alors, quel enseignement tirez-vous, vous, en tant que PPAC?
Bien, en regardant les efforts fournis par le PASTEF, le parti de M. Ousmane Sonko, qui a été dissous, en observant donc l'abnégation, la détermination des militants de ce parti et du peuple sénégalais en général, on ne peut que saluer cela et féliciter les militants de ce parti. Parce que lorsque vous êtes convaincu de défendre une cause juste, aucun obstacle, même l'emprisonnement ou les tentatives d'assassinat, aucun obstacle ne devrait vous détourner de votre chemin. Nous saluons aussi le fait que les structures chargées du processus électoral aient joué à fond la carte de la transparence et donc ont rendu ainsi les élections crédibles.
Est-ce que vous êtes aussi au courant que la CEI annonce procéder à la mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril?
Nous avons eu le communiqué. Nous attendons de nous concerter là-dessus et de voir avec les services techniques de la CEI en quoi cela consiste réellement. Et puis bon, politiquement, comme je l'ai dit, pour nous, la question ce n'est pas de faire une révision saupoudrage de la liste électorale. Il s'agit de faire table rase de ce qui existe actuellement pour qu'on parte de nouveaux fonds bâtissements. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est la commission électorale qui organise des élections qui se terminent par des crises post-électorales. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on règle ça définitivement.
Mais la CEI n'annonce que la mise à jour de la cartographie électorale. Est-ce que vous êtes contre cela?
Non, je ne dis pas que je suis contre cela. Je dis qu'on doit avoir un débat global sur les conditions générales d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la cartographie, c'est pour savoir si dans telle région, bien dans tel département, bien dans telle ville, on maintient le nombre de bureaux de vote qu'il y avait aux dernières élections. Est-ce que les populations ont augmenté dans tel secteur? Ça, c'est des questions techniques. La question politique qui est de fond, c'est que l'organe qui gère les élections-là, on doit le revoir de fond en comble. C'est ça qui est la position du PPAC.
Jean-Gervais Tchéidé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Jean-Gervais Tchéidé, secrétaire général du PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. Le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, a attendu ce mardi à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Mise à jour de la cartographie électorale du 1er au 30 avril prochain, le FPI juge plus importante une réforme de la CEI. Le RHDP, de son côté, s'interroge sur cette position et estime au contraire que cette opération est une priorité. Sur ces divergences, vous avez eu dans le journal Kwaku Kra, vice-président du parti à la Rose, chargé des questions électorale et pour le parti au pouvoir, Doumbia Brahima, secrétaire exécutif adjoint chargé des élections. Et puis le plus jeune président du Sénégal, âgé de 44 ans, Bassirou Diouma Faye, a prêté serment devant ses pairs africains ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Dans un court instant, la revue de la presse proposée par Aoussi Poutin.
Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons notre revue de presse de ce jour par la visite officielle du 2 au 4 avril 2024.